Chapitre 47. Plus je réfléchis à cette affaire, Elisabeth, dit son oncle comme il quittait la ville, et plus je suis enclin à partager l'opinion de votre sœur aînée. Il semble si peu probable qu'un jeune homme forme un pareil dessein sur une jeune personne qui ne manque ni de parents ni d'amis et qui résidait dans la maison même du colonel Forster, que je suis vraiment fort porté à mieux espérer. Pourrait-il croire que les parents de Lydia ne lui viendraient point demander raison d'une telle entreprise ? Pourrait-il espérer de jouir encore de quelque considération dans le régiment après avoir fait un pareil affront à son colonel ? Non, non, il ne peut s'aveugler à ce point. Le pensez-vous réellement ? S'écria vivement Elisabeth. Vraiment, dit Madame Gardiner, je commence à être de l'avis de votre oncle. Je ne puis penser que Wickham soit assez dépravé pour violer à ce point les lois de l'honneur et de l'amitié. Son propre intérêt le lui défend. Vous-même, Lydie, pouvez-vous l'en croire capable ? Non de négliger ses propres intérêts, dit Elisabeth. Mais s'y fait bien de toute autre chose. Si enfin vous en jugez mieux que moi, ce que je n'ose espérer, pourquoi ne sont-ils pas allés sur le champ en Écosse ? En premier lieu, reprit M. Gardiner, il n'y a nulle preuve certaine qu'ils ne sont pas allés en Écosse. Oh, mais quitter la chaise-poste, prendre un fiacre, voilà ce me semble des indices suffisants. Et d'ailleurs, on n'a pu découvrir aucune trace d'eux sur la route de Barnett. Eh bien, supposons même qu'ils soient à Londres. Ils peuvent s'y être rendus dans la seule vue de se cacher. Il n'est pas fort probable qu'ils aient ni l'un ni l'autre beaucoup d'argent. Et peut-être ont-ils pensé qu'ils se pourraient marier, sinon promptement, du moins plus économiquement, à Londres qu'en Écosse. Mais pourquoi tout ce mystère, dit Elisabeth ? Pourquoi craindre tant d'être découvert ? Pour quelle raison leur mariage doit-il être un secret ? Ah non, non, tout cela n'est pas probable. Wickham n'épousera jamais une femme sans fortune. Ses moyens ne le lui permettent pas. À l'égard de votre première supposition, ne sachant point quel effet une semblable démarche peut produire dans le régiment, je ne puis juger si aucune crainte à ce sujet pourrait le retenir. Mais quant à l'autre, elle me semble fort peu fondée. Lydia n'a pas de frère qui la puisse venger. Et Wickham jugeant mon père d'après sa conduite ordinaire, son extrême indolence et le peu d'attention qu'il peut donner à ce qui se passe dans sa famille, il s'est peut-être imaginé qu'il ferait et dirait aussi peu qu'un père peut le faire dans une semblable occasion. Mais pouvez-vous penser que Lydia soit assez aveuglée par sa passion pour consentir à vivre avec lui sans être sa femme ? Il est en vérité bien pénible, reprit Elisabeth, les yeux remplis de larmes, que l'on puisse sur un tel point mettre en doute la vertu d'une sœur. Mais vraiment, je ne sais qu'en penser. Peut-être je ne lui rends pas justice, mais elle est bien jeune. Jamais on ne lui a appris à réfléchir. Et depuis 6 mois, que dis-je, depuis plus d'un an, elle ne s'est adonnée qu'au plaisir. On lui a permis de disposer de son temps de la manière la plus frivole et d'adopter toutes les opinions qui lui passaient par la tête depuis que le régiment a été cantonné à Meryton. L'amour, la coquetterie ont seul occupé son imagination, qui, déjà vive et ardente, l'est devenue bien plus encore. Et nous savons tous que Wickham possède éminemment le don de captiver une femme. « Mais vous voyez qu'Hélène, dit sa tante, ne juge pas Wickham assez sévèrement pour le croire capable d'une telle infamie. De qui Hélène a-t-elle jamais mal parlé ? Existe-t-il un homme sur la terre, quelle qu'eût été sa conduite précédente, qu'elle voulût croire capable d'un pareil dessein, à moins qu'on en eût des preuves irrécusables. Hélène sait comme moi ce que l'on doit penser de Wickham. Nous savons l'une et l'autre qu'il a été libertin dans toute l'étendue du mot, qu'il n'a ni intégrité ni honneur, qu'il est aussi faux, aussi hypocrite que son langage est insinuant. Vous savez réellement tout cela ? S'écria Madame Gardiner, fort curieuse de connaître la source d'où provenaient ces informations. « Oui, malheureusement, nous n'en pouvons douter, » reprit Elisabeth en rougissant. « Je vous ai dit l'autre jour quelle avait été sa conduite à l'égard de M. Darcy, et vous-même, ma tante, lors de votre dernier voyage à Longbourn, vous avez entendu de quelle manière il parlait de l'homme qui s'est conduit envers lui avec tant de grandeur et de générosité. » Il y a d'autres circonstances qu'il ne m'est pas permis, qui ne valent pas la peine d'être rappelées ici. Mais ces mensonges sur la famille de Pemberley sont sans nombre. D'après ce qu'il m'avait dit de Mademoiselle Darcy, je m'attendais à voir en elle une femme fière, hautaine, dédaigneuse. Cependant, il savait fort bien le contraire. Il ne pouvait douter qu'elle ne fût aussi douce, aussi aimable qu'elle nous a paru l'être. Mais Lydia ne sait-elle rien de tout cela? Peut-elle ignorer ce que vous et Hélène semblez si bien connaître? Hélas, oui, elle l'ignore, et voilà ce qui met le comble à ma douleur. Jusqu'à mon voyage dans Kent, où je vis si fréquemment M. Darcy et son cousin le colonel Fitzwilliam, j'ignorais moi-même la vérité. Et lorsque je revins à Longbourne, le régiment devant quitter Meryton dans 8 ou 15 jours, ni Hélène, à qui je confiais le tout, ni moi, ne pensâmes qu'il fût nécessaire de publier ce que nous savions, car il paraissait fort inutile de détruire alors la bonne opinion que généralement on avait de lui. Et même quand il fut décidé que Lydia accompagnerait Madame Forster, l'idée qu'il pourrait être nécessaire de lui dévoiler le caractère de Wickham ne se présenta pas une seule fois à mon esprit. Qu'un malheur comme celui-ci serait la suite de ce silence, c'est de quoi vraiment on ne pouvait se douter. Quand ils partirent tous pour Brighton, vous n'aviez, je présume, aucune raison de penser qu'ils fussent attachés l'un à l'autre? Pas la moindre. Je ne puis me rappeler nulle preuve d'attachement, ni d'un côté ni de l'autre. Et si quelque chose de cette nature avait pu être remarqué, vous savez que ce n'est pas dans notre famille qu'on l'aurait pu cacher. Quand il vint d'abord dans Herefordshire, elle le trouva fort aimable, mais en cela chacune de nous partageait son opinion. Toutes les demoiselles dans Meryton et les environs raffolèrent de lui pendant les 2 premiers mois, mais jamais il n'a rendu à Lydia aucun soin particulier. Par conséquent, sa vive admiration pour lui dura peu, et d'autres officiers qui la traitaient avec plus de distinction furent bientôt ses favoris. On croira facilement que, bien que toutes les discussions sur un sujet si intéressant ne pussent rien ajouter à leurs craintes ou à leurs espérances, aucun autre sujet, cependant, ne les en put distraire pendant la route. Ils voyageaient avec beaucoup de célérité, et n'ayant couché qu'une nuit en route, arrivèrent à Longbourne le jour suivant vers l'heure du dîner. Il était consolant pour Élisabeth de penser qu'Hélène n'avait pas été tourmentée par une longue attente. Les petits gardeneurs, attirés par la vue d'une chaise de poste, accoururent sur le perron comme ils entraient à la grille, et lorsque la voiture s'arrêta, la surprise et la joie, exprimées par leurs petits cris, par leurs sauts enfantins, furent le premier signal du plaisir que causait leur retour. Élisabeth se précipita hors de la voiture, et après les avoir à la hâte embrassés, courut au vestibule où Hélène vint la recevoir. En se voyant, leurs yeux se remplirent de larmes, et Élisabeth, tout en embrassant tendrement sa sœur, s'empressait de lui demander si on avait eu des nouvelles des fugitifs. Non, pas encore, répondit Hélène. Mais maintenant que notre bon oncle est arrivé, j'espère que tout ira bien. Mon père est-il à Londres? Oui, il est parti mardi matin, comme je vous l'ai mandé. Et vous avez souvent reçu de ses nouvelles? Une seule fois. Il nous a écrit le mercredi pour nous dire qu'il était arrivé en bonne santé et nous donner son adresse. Je la lui avais particulièrement demandée. Il nous mandait aussi qu'il n'écrirait de nouveau que lorsqu'il aurait quelque chose d'important à nous communiquer. « Et ma mère, comment est-elle? Comment allez-vous tous ?»« Maman va assez bien, quoiqu'elle soit actuellement affectée. Votre retour lui fera un plaisir extrême. Elle ne quitte point encore sa chambre. Mary et Kitty, grâce au ciel, sont bien. »« Mais vous, s'écria Élisabeth, vous avez l'air malade. Oh, combien vous avez dû souffrir !» Sa sœur l'assura cependant qu'elle n'était point indisposée, et cette conversation s'étant passée pendant que Monsieur et Madame Gardiner s'occupaient des enfants, finit à leur approche, et Hélène, allant de son oncle à sa tante, leur exprimait tour à tour, par son sourire et par ses larmes, le plaisir qu'elle avait à les revoir, et ses regrets que leur retour fût hâté par un événement si désagréable. Entrés au salon, les questions déjà posées par Élisabeth furent rappelées par son oncle et sa tante, mais ils virent qu'Hélène ne leur pouvait rien apprendre de nouveau, Toutefois, les douces espérances que lui suggérait la bonté de son cœur ne l'avaient point encore abandonnée. Elle voyait toujours que cette affaire se terminerait bien, et chaque matin elle attendait qu'une lettre de Lydia ou de son père vint expliquer sa fuite et annoncer peut-être son mariage. Madame Bennet, auprès de laquelle ils se rendirent alors, les reçut, comme on le pouvait prévoir, avec des pleurs et des lamentations, se plaignant amèrement de l'indigne conduite de Wickham, de ses propres souffrances, et surtout du peu de cas que l'on faisait toujours de ses avis, blâmant tout le monde, hormis la personne qui, par sa folle complaisance, était la principale cause des erreurs de sa fille. « Si j'avais pu suivre mes désirs, dit-elle, et aller avec mes enfants à Brighton, tout cela ne serait point arrivé. Mais ma pauvre Lydia n'avait personne qui prît soin d'elle. Pourquoi les Forster lui ont-ils permis de les quitter un seul instant ? Je suis sûre qu'il y a eu quelque grande négligence de leur part, car elle n'est point fille à se conduire ainsi si on l'avait un peu surveillée. J'ai toujours dit et pensé que Madame Forster n'était nullement faite pour lui servir de mentor, mais comme de coutume, on ne m'a pas voulu écouter. Pauvre cher enfant, et à 7 heures voilà Monsieur Bennet parti. Je sais fort bien qu'il doit se battre avec Wickham partout où il le trouvera. Il sera tué, j'en suis sûr, et alors que ferons-nous ? À peine sera-t-il dans le tombeau que les Collins nous chasseront d'ici. Et si vous ne prenez pitié de nous, mon frère, je ne sais en vérité ce que nous deviendrons. » Ils se récrièrent tous contre des idées aussi sinistres, et M. Gardiner, après l'avoir assuré de l'intérêt qu'il prendrait toujours à elle et à sa famille, lui dit qu'il comptait être à Londres le lendemain matin, et qu'il ferait, avec M. Bennet, toutes les démarches possibles pour retrouver Lydia. « Ne vous laissez pas aller ainsi à des craintes inutiles. » Et il ajouta, quoiqu'il soit fort raisonnable de se préparer au pis, il ne faut pas cependant le regarder comme certain. À peine une semaine s'est-elle écoulée depuis leur départ de Brighton. Dans quelques jours, peut-être, nous entendrons parler d'eux, et jusqu'à ce que nous sachions positivement qu'ils ne sont point mariés, ou qu'ils n'ont point l'intention de l'être, il ne faut pas regarder l'affaire comme perdue. Dès que je serai en ville, j'informerai mon frère à venir demeurer avec moi, afin que nous puissions aviser au meilleur parti à prendre. « Oh, mon cher bon ami, répondit Madame Bennet, voilà absolument ce que je désire. Aussitôt que vous serez à Londres, trouvez-les, n'importe où ils soient. Et s'ils ne sont pas encore mariés, faites-les se marier. Quant au trousseau, que cela ne les inquiète pas, mais dites à Lydia qu'après son mariage, elle aura autant d'argent qu'elle voudra pour faire les emplettes d'usage. Et surtout, empêchez Monsieur Bennet de se battre. Dites-lui dans quel état je suis. » Combien je suis inquiète, combien je souffre, mes nerfs sont agités, je ne puis trouver de repos ni la nuit ni le jour. Et dites à ma bien-aimée Lydia de ne donner aucun ordre pour ses robes, broderies, etc., qu'elle ne m'ait vue, car ne connaissant pas les meilleurs magasins, on pourrait la tromper. Oh mon frère, comme vous êtes bon! J'étais sûr que vous termineriez tout cela au mieux. Mais M. Gardiner, tout en l'assurant de nouveau qu'elle pouvait compter sur ses bons offices, ne put s'empêcher cependant de lui recommander de la modération dans ses craintes comme dans ses espérances, et après avoir discouru sur ce sujet jusqu'au moment du dîner, ils la laissèrent avec sa femme de charge, qui la soignait en l'absence de ses filles. Bien que son frère et sa sœur fussent persuadés qu'il n'y avait nulle raison pour qu'elle se séparât ainsi de sa famille, ils n'essayèrent point de s'y opposer, sachant qu'elle n'avait ni assez de prudence, ni assez de discrétion, pour se taire devant les domestiques pendant qu'ils servaient à table. Ils pensèrent donc qu'il valait mieux qu'une seule d'entre eux, et celle à qui on pouvait le mieux se fier, fut la confidente de ses craintes et de ses ennuis. Ils furent joints dans la salle à manger par Mary et Kitty, qui toutes deux avaient été trop occupées pour paraître plus tôt. La première venait de son piano, et l'autre de sa toilette. Elles paraissaient cependant l'une et l'autre fort calmes. Aucun changement ne s'apercevait en elle, sinon que la perte de sa sœur favorite et les reproches qu'elle avait essuyés sur cette affaire avaient donné à Kitty un air encore moins aimable qu'à l'ordinaire. Quant à Mary, peu d'instants après qu'ils furent à table, elle se trouva assez maîtresse d'elle-même pour dire à demi-voix à Elizabeth, d'un air grave et réfléchi, « Cette affaire est des plus malheureuses et sera longtemps la fable du voisinage. » Mais il faut s'efforcer de mettre un frein au discours des malveillants et verser dans nos cœurs affligés le baume si doux que l'amitié sait offrir aux êtres les plus infortunés. Alors, voyant qu'Élisabeth ne semblait point disposée à lui répondre, elle ajouta « Quelque malheureux que cet événement soit pour Lydia, nous pouvons du moins en tirer cette leçon, que la perte de la vertu dans une femme est un mal irréparable, qu'un seul faux pas conduit à sa ruine, et que sa réputation est une fleur fragile autant que belle, qu'un souffle suffit pour flétrir, et qu'on ne saurait trop se défier de la séduction des hommes. » Cette froide tranquillité étonna vivement Élisabeth, mais elle était trop affectée pour répondre, et Mary, bien qu'elle ne pût attirer l'attention de sa sœur, continua néanmoins à se consoler elle-même par de semblables réflexions. Dans l'après-midi, Hélène et Élisabeth ayant la satisfaction de se trouver quelques instants ensemble sans témoin, Élisabeth prit cette occasion pour poser diverses questions auxquelles sa sœur était fort empressée de répondre. Et après s'être entretenue des terribles suites de cet événement, qu'Élisabeth regardait comme presque certaine et que Mademoiselle Bennet n'osait croire possible, la première continua ainsi « Mais dites-moi tout, les plus minces détails sur cette affaire doivent m'intéresser. Qu'a dit le colonel Forster avant leur fuite? S'était-il douté de quelque chose? Il me semble qu'on devait les voir continuellement ensemble. » Le colonel Forster a avoué qu'il avait souvent soupçonné quelque intelligence entre eux, mais cependant rien qui pût l'inquiéter. Je suis vraiment fâché pour lui. Sa conduite à notre égard a été des plus attentives. Il devait venir à Longbourn nous assurer de la part qu'il prenait à notre peine, avant même qu'il n'eût l'idée que Wickham ne comptait point aller en Écosse. Et lorsqu'on vint lui manifester quelques doutes à ce sujet, il hâta encore son voyage. Et Denis, était-il convaincu que Wickham ne voulait pas se marier? Savait-il d'avance qu'ils avaient dessein de s'enfuir? Le colonel Forster a-t-il lui-même vu Denis? Oui, mais lorsque Denis fut questionné par lui à ce sujet, il assura n'avoir eu aucune connaissance de leur projet et ne voulut même pas dire ce qu'il en pensait. Jusqu'à l'arrivée du colonel Forster, nul de vous, je présume, n'aviez le moindre doute sur leur mariage. Non, vraiment! Qui pouvait former une semblable pensée? J'étais inquiète, je l'avoue, sachant que la conduite de Wickham n'avait pas toujours été très régulière. Je craignais que ma sœur ne fût point heureuse avec lui. Mon père et ma mère ignoraient tout cela. Le manque de fortune leur faisait seul désapprouver le mariage. Kitty avoua alors qu'elle en savait plus que les autres, et que Lydia, dans ses dernières lettres, l'avait préparée à cette nouvelle. Kitty, à ce qu'il paraît, savait déjà depuis quelque temps qu'ils étaient attachés l'un à l'autre. Mais s'aimaient-ils avant leur départ pour Brighton? Je ne le crois pas. Et le colonel Forster, qu'a-t-il dit de Wickham? Semblait-il n'avoir plus la même estime pour lui? Je dois avouer qu'il ne vantait plus comme autrefois ses bonnes qualités. Il le croit même étourdi, imprudent. Et depuis que cette triste affaire a eu lieu, il dit qu'il a laissé beaucoup de dettes à Meryton. J'espère que cette dernière accusation, du moins, n'est pas fondée. Oh, Hélène, si nous avions été moins discrètes, moins craintives, tout cela n'aurait point eu lieu. Peut-être, mais enfin, nous avons agi pour le mieux. Le colonel Forster a-t-il pu se rappeler le contenu de la lettre de Lydia à sa femme? Il nous l'a apportée. Hélène, la tirant alors de son portefeuille, la donna à Élisabeth. Elle était ainsi conçue. Ma chère Henriette, vous rirez quand vous saurez où je suis allée. Je puis à peine m'empêcher de rire moi-même, en pensant combien vous serez étonnée demain matin lorsqu'on s'apercevra de mon absence. Je pars pour Gretna Green, et si vous ne pouvez deviner avec qui, j'aurai vraiment une pauvre idée de votre sagacité, car il n'y a qu'un homme dans le monde que j'aime, et cet homme est un ange. Je ne pourrais être heureuse sans lui. Aussi, je ne crois pas mal agir en le suivant. Il n'est nullement nécessaire de faire part à mes parents de mon départ, si cela vous embarrasse. Leur surprise n'en sera que plus grande lorsque je leur écrirai et que je signerai Lydia Wickham. Oh, quelle bonne folie, cette idée me fait pâmer de rire. Excusez-moi, je vous prie, auprès de Pralt, avec qui j'avais promis de danser ce soir. Dites-lui que j'espère qu'il me pardonnera, lorsqu'il saura pourquoi je lui manque de parole, et qu'au premier bal où je le rencontrerai, Je m'engage avec plaisir à ne danser qu'avec lui. J'enverrai chercher mes effets aussitôt que je serai à Langbourne. Mais si vous voulez dire à Sally de raccommoder ma robe de mousseline brodée avant de la mettre dans la malle, vous m'obligerez. Adieu. Mille amitiés de ma part au colonel Forster. J'espère qu'il boira aujourd'hui un grand verre de vin au succès de notre voyage. Votre sincère amie, Lydia Bennett. Oh, Lydia, Lydia, répétait Elisabeth avec la plus vive émotion, comme elle finissait cette lecture. Quelle lettre ! Oh ciel, tant de gaieté dans un semblable moment ! Mais enfin, ce billet prouve que se marier était le seul but de son voyage, et quelle que soit la conduite que Wickham l'ait ensuite engagée à tenir, elle l'a suivie du moins avec l'idée de devenir sa femme. Oh mon pauvre père, combien cet événement a dû lui faire impression ! Sa surprise, sa consternation furent telles qu'on ne le saurait exprimer. Il demeura longtemps sans pouvoir proférer un seul mot. Maman se trouva mal sur le champ, et toute la maison était en confusion. « Oh, Hélène ! » s'écria Elisabeth. « Cette déplorable histoire n'est-elle pas sue de tout le voisinage ? Nos domestiques n'en sont-ils pas tous instruits ? » ?»« Je ne sais, j'espère que non. Mais dans un semblable moment, il est difficile de ne point commettre quelque imprudence. » Maman a eu plusieurs attaques de nerfs. J'ai essayé de lui donner tous les secours qui dépendaient de moi, mais je crains de n'avoir pas fait assez pour elle, car mon trouble était si grand que je ne sais trop comment j'ai agi.
Vous avez fait plus que vous ne pouviez. Vous êtes souffrante, fatiguée, je le vois bien. Oh, si du moins j'avais été avec vous, nous nous serions aidés et consolés mutuellement.
Alors elle s'enquit des projets qu'avait son père en allant à Londres. Et de quels moyens il voulait se servir pour retrouver sa fille.
Il comptait, je pense, aller à Epsom, dit Hélène, lieu où ils ont changé de chevaux pour la dernière fois, voulant voir les postillons et chercher s'ils pouvaient apprendre quelque chose d'eux.
Mais son principal but était de découvrir le numéro du fiacre qu'ils ont pris à Clapham. Ce fiacre venait de ramener une famille de Londres, et mon père pensait que quelqu'un, en voyant un officier et une jeune personne passer d'une chaise de poste dans un fiacre, on aurait pu remarquer le numéro. Je ne crois pas qu'il eût formé aucun projet, mais il est parti si à la hâte et son esprit était si troublé que j'ai eu de la peine même à apprendre de lui ces simples détails.